Cap Bas Carbone, le podcast de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables avec Dalkia.
Bonjour, bienvenue dans cet épisode consacré à l'électrification des procédés, un enjeu majeur pour atteindre la neutralité carbone en 2050, mais aussi pour la compétitivité des entreprises. Pour en parler, notre invité Bruno Bellamy, le directeur du marché industrie de Dalkia.
Cap Bas Carbone, animé par Paul-Emmanuel Géry.
Bonjour Bruno.
Bonjour.
Avec vous, nous allons donc continuer à passer en revue les solutions pour aider les industriels à améliorer leur efficacité énergétique et à décarboner. Dans le précédent numéro de Cap Bas Carbone, j'avais évoqué la question de l'air comprimé avec Dalkia Air Solutions. Nous avons aussi parlé ces derniers mois des réseaux de chaleur et de la chaleur fatale. Et d'ailleurs, à propos de chaleur fatale, avant de parler d'électrification des procédés, je voudrais que vous réagissiez à un sujet d'actualité. Lors d'une table ronde le mois dernier dans les Yvelines, avec entre autres la FEDEN et puis Sylvie Géhanneau, la présidente directrice générale de Dalkia, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé plusieurs mesures qui vont dans le bon sens.
Oui, en effet, Bruno Le Maire a mis en avant trois mesures importantes pour la décarbonation et qui en plus mettent en avant notre métier. La première apporte un soutien renforcé aux contrats de performance énergétique avec le lancement d'appels d'offres pour la rénovation énergétique des bâtiments de l'État en tiers-financement. La deuxième valorise aussi les contrats de performance énergétique en rendant leurs gains énergétiques issus de ces contrats en fait éligibles au C2E.
Les C2E, certificats d'économie d'énergie.
Enfin, troisième mesure qui me tient tout particulièrement à cœur, il a annoncé la création d'un fonds assurantiel pour dérisquer les projets de chaleur fatale sur les sites industriels.
Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots le contexte de cette annonce ?
Si on veut redonner effectivement un petit peu de contexte, le sujet, c'est globalement l'accélération de la trajectoire de décarbonation de la France pour faire face à l'urgence climatique, avec un plan pluriannuel de programmation énergétique qui est en cours d'élaboration et qui donne l'ambition et les priorités des différentes énergies renouvelables. Si le développement de la biomasse, qui est aujourd'hui la première énergie renouvelable utilisée en France, est mature, en fait, il convient d'accélérer le développement des autres énergies renouvelables, en particulier la récupération et la valorisation de chaleur fatale des industriels dont le potentiel est sous-exploité.
Vous avez quelques chiffres ?
Alors, pour donner quelques chiffres, justement, le potentiel de chaleur fatale estimé par l'ADEME est de environ 19 TWh par an. Au passage, c'est un chiffre absolument gigantesque, puisque 19 TWh d'énergie renouvelable, c'est plus que la totalité des ENR aujourd'hui injectés sur les réseaux de chaleur en France. Sacré potentiel, sauf qu'aujourd'hui, on est quasiment à zéro. Dans les statistiques de 2019, on devait être à 0,5 TWh, et ce, malgré quelques belles références emblématiques. Le réseau de chaleur de Dunkerque est alimenté en grande partie par la récupération sur la série d'ArcelorMittal, ou sur Charleville-Mézières, le réseau qui est alimenté par récupération sur la fonderie de Stellantis.
Alors effectivement, ce sont de très belles références, mais par rapport au potentiel national, cela reste quand même marginal. Quels sont les freins au développement de cette ENR ?
Alors, on a travaillé en fait au niveau de la FEDEN, la fédération de nos métiers, sur ces freins. Et le principal frein identifié, en fait, c'est la couverture du risque de perte de la source de chaleur fatale en cas de fermeture du site industriel ou tout simplement d'une modification de sa production. C'est un risque qu'on n'arrive pas à faire garantir par l'industriel lui-même, tout simplement parce qu'en général, la recette qu'il va gagner en fait, de la vente de sa chaleur fatale ne couvre pas en fait, les capitaux à investir. Et puis, de l'autre côté, les opérateurs de réseau, tels que Dalkia, ont réellement du mal à appréhender ce risque de fermeture du site. Et c'est un risque que, sauf exception, on ne prend pas. Et du coup, c'est un risque que personne ne veut prendre. Et la bonne nouvelle, c'est que la création de ce fonds assurantiel qui va venir couvrir les capitaux non amortis de ces réseaux de chaleur fatale, eh ben, ça va lever ce principal frein et dynamiser la création de ces réseaux.
Merci pour ces explications sur la chaleur fatale. Il y avait quand même un lien avec l'électrification des procédés.
On va mettre en parallèle la chaleur fatale et l'électrification. Eh bien, vous allez me dire, l'électricité, ce n'est pas réellement une énergie renouvelable. Et effectivement, on ne la considère pas en tant que telle. Ceci dit, en France, grâce au nucléaire, à l'hydroélectrique, à l'éolien, au photovoltaïque, la production, notre électricité est quasiment totalement décarbonée. Et clairement, elle a un rôle important à jouer dans la décarbonation du pays.
Alors, passons maintenant au sujet de cet épisode, l'électrification des procédés. Pouvez-vous tout d'abord nous dire en quoi cela consiste ?
c'est un peu décrit dans le mot, en fait, hein, mais ça consiste finalement à remplacer sur certains procédés qui utilisent des énergies fossiles, eh bien, à remplacer l'énergie d'alimentation de ce procédé par une alimentation électrique, d'où l'électrification.
Et bien sûr, les avantages de l'électrification sont très nombreux.
Bon, comme je disais tout à l'heure, déjà, on a en France une électricité décarbonée, donc ça participe directement en fait, à la décarbonation. Et puis, face à une sécurité d'approvisionnement de combustibles fossiles venant majoritairement d'autres pays, l'électrification avec une électricité qui est produite en France participe à notre souveraineté nationale énergétique.
Et puis également, ça va permettre de réduire les coûts, du moins d'avoir une stabilité, peut-être de sécuriser les approvisionnements. Les tarifs de l'électricité sont plus stables et prévisibles, d'autant plus que le marché a été réorganisé et puis il y a de nouveaux tarifs EDF.
Alors, vous avez raison de souligner ce point. On a bien sûr l'annonce en fait, de la fin de l'AREN, hein, l'accès aux tarifs historiques du nucléaire, et qui va être remplacé par de nouveaux modèles contractuels. Et en particulier, les industriels vont pouvoir désormais contractualiser leur approvisionnement énergétique avec n'importe quel fournisseur d'électricité sur des durées allant jusqu'à 5 ans, et même pour certains électro-intensifs, contractualiser sur 10 ou 15 ans. Et donc, on a d'une part, sur ce marché de l'électricité, une visibilité sur les prix long terme qui va s'améliorer. De l'autre côté, on a un signal prix donné par le gouvernement sur le coût carbone, et donc notamment au travers de la taxation carbone, et qui, lui, renchérit en fait, le prix des énergies fossiles. Et donc, ce double signal prix, renforcement de la taxation des énergies fossiles, meilleure visibilité sur les prix long terme d'électricité, est clairement un levier en faveur en fait, de l'électrification.
Et le potentiel de cette électrification des procédés est vraiment énorme en France.
Alors oui, effectivement extrêmement important. On a à peu près 240 TWh de consommation énergétique des procédés thermiques industriels non électrifiés aujourd'hui. Et sur ces 240 TWh, on estime qu'environ 70 TWh sont électrifiables. 70 TWh d'énergie fossile que l'on supprime en faveur de l'électrification, eh bien, c'est un très très beau pourcentage, hein, presque 30% de décarbonation grâce à l'électrification.
Parlons maintenant des solutions. Après tous ces chiffres, la stratégie nationale bas carbone identifie plusieurs technologies électriques qui sont matures. Tout d'abord, les pompes à chaleur.
Alors, les pompes à chaleur, c'est clairement en fait une technologie qui a un gros potentiel, tout simplement parce que une pompe à chaleur, ça consomme 3 ou 4 fois moins d'énergie pour faire de la thermique que une chaudière. Et donc, le gain énergétique apporté par la pompe à chaleur va la rendre très compétitive. Et c'est la raison pour laquelle Dalkia l'a mis en axe majeur de développement.
Pouvez-vous nous rappeler comment cela fonctionne ?
Une pompe à chaleur, ça puise la chaleur à basse température dans un rejet. Ça peut être l'air ambiant, un rejet tiède d'un industriel. Ça peut être la récupération de chaleur dans le sol. Et on évapore un gaz que l'on va recomprimer pour restituer cette chaleur à plus haute température.
Quand on dit plus haute température, ça monte jusqu'à combien une pompe à chaleur, je dirais entre guillemets classique ?
La plupart des pompes à chaleur fonctionne sur un régime de température où on récupère de la température à une vingtaine de degrés pour la remonter à environ 70 degrés. Et ça, entre nous, c'est parfait pour faire du chauffage dans un immeuble de logement, par exemple.
En revanche, dans l'industrie, ce n'est pas toujours suffisant.
Oui, pour les industriels où on a des besoins au-dessus de 100 degrés, en association avec les laboratoires des mines de Paris, des labos de recherche d'EDF, notre filiale Dalkia Solution qui a construit cette magnifique pompe à chaleur, nous avons développé une pompe à chaleur que nous appelons Transpac et qui permet de faire de la chaleur jusqu'à 140-145 degrés en récupération autour de 60-70 degrés et avec un excellent rendement.
Vous avez installé chez un papetier Vepa une pompe à chaleur haute température. Après un an de test, elle va être inaugurée dans quelques jours. Les performances sont-elles au rendez-vous ?
Elle est effectivement extrêmement efficace puisque, et c'est une grande première technologique, puisque nous allons pouvoir élever par une pompe à chaleur de l'énergie de 60 degrés à 140 degrés avec un coefficient d'efficacité énergétique proche de 4. C'est exceptionnel. D'ordinaire, les pompes à chaleur ne permettent de remonter que d'une quarantaine de degrés avec ce même coefficient de performance énergétique. Notre partenaire Vepa recycle de la pâte à papier et a un sécheur dans lequel il a besoin en fait de sécher sa pâte pour pouvoir la distribuer vers ses clients. Et donc, ce sécheur, il fonctionne à une température proche de 140 degrés. Et en fait, on récupère l'énergie qui sort des buées de ce sécheur. On condense l'eau des buées et c'est cette énergie-là que Transpac récupère. On relève cette température dans la machine à 155 degrés et on arrive à délivrer sur le séchoir de la chaleur, de l'air chaud à 135-140 degrés, qui est le bon niveau de température pour le fonctionnement du sécheur.
Donc quelque chose de très efficace. Je crois que ça divise énormément les émissions de CO2.
L'électricité étant elle-même décarbonée, le facteur de décarbonation est entre 16 et 20, ce qui est exceptionnel.
Alors, la PAC haute température est-elle la solution? Quelles sont les conditions de réussite?
Vous avez raison, c'est une solution, et je vais en évoquer d'autres après, mais commençons déjà par essayer d'expliciter un peu cette solution. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on parle d'une pompe à chaleur, on parle avant tout d'un fluide, d'une température d'évaporation de ce fluide, de pression à laquelle on va le remonter. Et donc, pour chaque fluide de pompe à chaleur, va correspondre un couple, température de récupération, température de restitution. Transpac, elle est parfaite pour récupérer de la chaleur entre 60 et 70 degrés et la restituer avec une grande plage de réchauffage jusqu'à 135 degrés pour de l'air, 145 degrés pour de l'eau surchauffée. Voilà. On va voir d'autres pompes à chaleur. On parle en particulier d'une pompe à chaleur à ammoniac hybride qui récupère autour de 30-40 degrés et qui va faire du 100-110 degrés. Voilà. Et donc, typiquement, je viens de vous présenter deux pompes à chaleur avec leur régime de température bien spécifique.
À chaque besoin, sa solution. Continuons dans les solutions. Il y en a d'autres, évidemment, pour décarboner l'industrie. Il y a notamment les compresseurs mécaniques de vapeur.
La compression mécanique de vapeur, c'est finalement, on peut dire, l'inverse d'une turbine à vapeur. Dans une turbine à vapeur, on a de la vapeur haute pression, on la détend pour faire de l'électricité. Là, c'est le contraire. On va prendre de la vapeur basse pression, on va mettre un moteur électrique pour la recomprimer et la ressortir à une plus haute pression. Et donc, quels sont les bons cas d'usage? Je vais essayer d'en citer un relativement simple. Mais par exemple, lorsque l'on veut faire du lait concentré, on va vouloir évaporer l'eau du lait pour faire ce lait en boîte un peu visqueux. Donc, quand on évapore de l'eau, finalement, on fait de la vapeur dans cet évapoconcentrateur. En sortie d'évapoconcentrateur, parfois, on met un condenseur pour juste jeter l'eau. Mais si, à cet endroit-là, on met un compresseur, une compression mécanique de vapeur, eh bien, on peut remonter cette vapeur en pression pour réalimenter l'évapoconcentrateur lui-même. Et avec un rendement d'efficacité énergétique qui peut atteindre un rapport de 30 par rapport à un évaporateur classique.
Est-ce qu'on pourrait également dire un mot de l'hydrogène vert? Parce que finalement, il y a un rapport aussi avec l'électrification.
Alors, déjà, je vais juste reprendre, mais quand on parle d'hydrogène vert, le plus souvent, on parle d'hydrogène produit à partir d'électrolyse de l'eau, alimenté en électricité. Et donc, deux options, hein. Soit on prend effectivement de l'électricité verte issue du photovoltaïque, mais le plus souvent, en fait, on sera sur une électricité nucléaire. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que c'est une électricité décarbonée, et c'est à ce titre que l'on parle d'hydrogène vert. Alors, l'avantage de l'hydrogène, en fait, c'est que quand on brûle de l'hydrogène, on fait le processus inverse de l'eau, on produit de l'eau. Clairement, sans aucune pollution, sans aucune émission de CO2. Et donc, on a en particulier dans le groupe une filiale d'EDF qui s'appelle Inamix, qui développe et commercialise ces procédés d'électrolyse. Technologie qui est en particulier parfaitement adaptée pour le verdissement des solutions de transport, typiquement les autocars, bus dans les villes. Ça permet d'avoir une énergie décarbonée. Il y a quand même une limite aux usages de l'hydrogène vert, c'est que ça reste une énergie extrêmement chère. Et autant le transport collectif ou le transport aérien peut se permettre de recourir à cette énergie relativement chère, c'est une énergie qui aura assez peu de place dans l'industrie, en tout cas en termes de combustion.
Et nous arrivons à la fin de ce podcast. Un mot de conclusion, Bruno?
Oui, on a finalement pas mal parlé de compression mécanique de vapeur et de pompe à chaleur. Ces technologies qui participent clairement à la décarbonation en fait, des productions thermiques sur les sites ne sont finalement qu'une petite pierre dans toute la démarche de Dalkia d'accompagnement des industriels dans la baisse de leur consommation énergétique. Le but de la CMV et de la pompe à chaleur, certes, est de produire de la chaleur verte, mais c'est surtout et avant tout des outils de récupération de chaleur fatale et donc d'efficacité énergétique sur les sites industriels. Et les équipes de Dalkia sont au service de ces industriels pour plus largement les aider à baisser leur consommation énergétique.
Et bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus sur ces solutions, vous pouvez vous rendre sur le site de Dalkia, contacter les équipes et écouter les précédents épisodes de Cap Bas Carbone où nous avons parlé de tous ces sujets. Merci Bruno Bellamy pour toutes vos explications.
Un grand merci pour votre écoute.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain.